BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Oui, je sais, très mauvaise nouvelle. Le mois des ponts est terminé, mais moi j'ai trois bonnes nouvelles pour vous. C'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission exceptionnelle, exceptionnelle, parce que nous allons vous donner toutes les clés, sans exception, pour comprendre ce qui s'est passé cette semaine sur l'économie, sur la finance, sur les placements exceptionnels en plus, parce qu'on va faire un petit changement. Ben oui, il faut bouger un peu. Hein. On va pas parler d'actions cotées aujourd'hui. Oui, on va parler de la bourse, on va vous donner le top 3, évidemment, en deuxième partie. Mais on a décidé de faire un peu un numéro spécial sur l'investissement non coté, le private equity, parce que l'investissement dans le non coté, ou le private equity, d'ailleurs, quel terme faut-il utiliser, commence à intéresser de plus en plus de particuliers. Alors au sommaire aujourd'hui, le mot de la semaine, ça sera ralentissement économique, la question macro... Elle me taraude. L'intelligence artificielle va-t-elle changer la face de l'économie mondiale? Un chiffre. J'ai choisi l'inflation. Alors, vous pourriez me dire, il y a eu l'inflation en France, il y a eu l'inflation en Allemagne. Non, j'ai choisi l'inflation en Espagne, 2,9%. Et je me suis posé une question de savoir pourquoi, finalement, quand on regarde le track record de l'Espagne, du Portugal et de la Grèce depuis un an, voire deux ans, ils nous mettent une pilée et ils nous écrasent. Pourquoi eux et pas nous? En deuxième partie de l'émission, bien évidemment, la bourse. Est-ce qu'on achète ou on vend? Le top 3 de nos gérants, les mots de la semaine de nos Jedi. Et donc, le placement de la semaine, et vous verrez, nos invités nous disent même que ce sera peut-être le placement de la décennie pour les particuliers. L'investissement dans le non-coté ou le private equity, mais vous le savez maintenant. Pour une émission exceptionnelle, moi je rigole toujours parce que ça me fait plaisir, c'est la partie que je préfère dans l'émission. Il faut des invités, je devrais m'arrêter juste après d'ailleurs, il y a plein de gens qui me disent qu'ils arrêtent après la présentation des invités. Il faut des invités exceptionnels, j'ai l'immense plaisir de vous présenter nos Jedi de l'économie et de la finance. J'ai demandé à ChatGPT les mots qu'il a décrivés le mieux, alors voici sa liste. Expérimentée, parce qu'elle a plus de 20 ans d'expérience en investissement et financement des projets. Leader, parce qu'elle est directrice exécutive des fonds de fonds de BPI France. Global, parce qu'elle a travaillé sur des projets dans les pays émergents, ainsi qu'en Afrique et en Asie, et a une perspective mondiale. Engagée, parce que son travail sur le plan climat de BPI France montre son engagement sur les questions environnementales. Adeline Lemaire, d'abord, bonjour.
Bonjour Marc.
Vous avez un fan, là, avec ChatGPT?
Ah ouais, c'est magnifique.
C'est pas mal, non?
J'irai voir moi-même.
Ouais, c'est vrai. Non, je mens pas. Hein. Moi, j'ai rien inventé. Alors, lui, ne vous fiez pas à sa voix calme et posée, car derrière cette voix calme et posée, il y a un torrent d'informations et de prévisions qui bouillonnent. C'est un sniper de la macroéconomie. Il vise juste, toujours, je peux en attester. Alain Bocobza, merci d'être venu. On vous
bonjour
a jamais dit ça.
Sniper, non. C'est pas mal, merci de chat dépiter.
Non, c'est vrai, vous m'avez dit, franchement, ça fait depuis plusieurs années, à chaque fois que vous m'avez dit des trucs très très précis. Je me rappelle depuis très longtemps, à l'époque sur le marché japonais, puis sur d'autres marchés, vous n'êtes jamais trompé, donc bravo. On vous attend comme un oracle, justement, on va parler d'oracle dans quelques secondes. Vous êtes responsable de la stratégie d'allocation d'actifs mondial à la Société Générale, c'est bien ça?
Tout à fait.
Quand j'ai tapé son nom sur ChatGPT, la réponse a été brève, mais alors fulgurante. Voilà ce qu'il m'a dit. Le Warren Buffett français. Waouh. Grégoire Santil. Vous vous rendez compte que ChatGPT vous a identifié comme étant le Warren Buffett français? Qu'est-ce que ça fait? Je rappelle donc que vous êtes président pour l'instant et cofondateur de la société NextStage, spécialisée entre autres, d'où votre présence, particulièrement aujourd'hui, sur les investissements. Donc, côté ça vous fait quoi de vous dire que ChatGPT vous a tout de suite identifié comme le successeur européen et français?
Que ChatGPT doit être plus transparent sur ses sources.
Que moi?
Non, et qui peut-être qu'on peut encore améliorer la traçabilité des informations sur...
Il y a beaucoup de fake news.
Sur ChatGPT.
Anna Boata, vous aussi, vous avez un fan inconditionnel. Pour ChatGPT, vous êtes experte, prévisionniste, responsable, enseignante. Je ne savais pas que vous étiez enseignante.
Oui.
Vous ne m'avez pas dit ça.
Sciences Po Dauphine.
Vous n'en avez jamais parlé.
Non, c'est vrai.
Impliqué et fidèle, puisque vous êtes dans la même entreprise depuis 2012. Ça vous va comme présentation?
Oui.
Je rappelle que vous êtes directrice de la recherche économique chez Alliance Trade. Merci à tous d'être venus. On attaque tout de suite tous les sujets et on commence tout de suite. J'avais envie de faire un point global sur le ralentissement économique.
Je suis pas tout seul à être tout seul.
Ouais, c'est un peu l'enfer, comme dit Stromae. On y voit franchement pas très clair. On s'attendait à ce que la Chine tire la croissance mondiale. Elle a pas l'air de décoller. On s'attendait à un fort ralentissement des États-Unis, mais la croissance résiste. En Europe, on ralentit plus ou moins en fonction des pays. En clair, ce n'est pas clair. Alain Bocobza, est-ce que l'économie mondiale ralentit? Est-ce qu'on va reparler de récession? Est-ce qu'en fait, tout le monde a une situation qui est tellement différente qu'on n'a plus de vision globale? Éclairez-nous.
L'économie mondiale n'est pas en récession. On a vécu un accident gravissime tout au début de l'entrée en pandémie en 2020. Depuis, un boom économique comme rarement on a connu dans l'histoire économique, avec un infléchissement depuis. Les injections fiscales et resserrements monétaires portent leurs effets qui sont des vents contraires. Et il y a des éléments étonnants par rapport au cycle précédent, c'est la résistance des marchés de l'emploi. Et quelque part, I have a job, I'm happy. J'ai mon boulot et je suis content. Et c'est ce qu'on vit depuis plusieurs trimestres maintenant, où il y a des indicateurs qui sont en grand conflit entre les indicateurs plus généraux, habituellement qui prédisent une entrée en récession prochaine. Et ils sont toujours là, voire ils se sont aggravés récemment suite à la crise des banques régionales
américaines. Donc là, vous me confirmez, parce que moi je regarde ces indicateurs.
C'est résistant.
Voilà.
C'est résistant.
C'est résistant, mais ça ralentit.
Ça ralentit, mais dans les prévisions, on a connu sur les 4 ou 5 derniers mois des prévisions qui ont monté sur l'exercice 2023 et 2024 par rapport à des attentes qui étaient franchement en baisse. Donc là, c'est de la résistance. Hein, c'est Papy qui fait de la résistance, avec notamment un marché de l'emploi qui est très bon, avec des taux de chômage qui ne cessent de baisser, en France, en Allemagne, un peu partout en Europe, aux États-Unis aussi. Et donc ça, c'est de la consommation en plus. Hein, c'est des gens qui...
Alors non seulement qui font baisser, mais on peut rappeler quand même qu'il y a pas mal de pays qui sont en situation de quasi plein emploi. Hein.
Oui.
Le Japon, les États-Unis presque, et d'autres.
Voilà. Et donc c'est ça qui fait que ce cycle est atypique, où certains avaient prédit sur les indicateurs classiques, traditionnels, on entrerait rapidement en récession.
C'est ce qu'on disait ici.
Oui. Et ça n'arrive pas pour le moment. Oui. C'est sans doute décalé dans le temps. Il ne faut pas non plus rêver. L'économie est cyclique. Elle finira.
C'est décalé dans le temps.
Oui, c'est décalé dans le temps.
Il y aura récession.
Oui, ça, c'est une certitude.
Après, ah oui.
C'est...
D'accord. Certitude quoi, en 2024 ou...
Alors, la certitude, c'est après le beau temps vient la pluie en économie. Il y a des cycles de meilleurs temps, de moins mauvais temps de plus mauvais. Et donc, on a décalé dans le temps pour 2023. Pour l'instant, tout est résistante aux États-Unis et dans la plupart des pays d'Europe. Donc, c'est plutôt sur la fin d'année 2024 qu'on peut imaginer que ces marchés de l'emploi extraordinairement résistants commencent à fléchir un peu par l'impact négatif des resserrements monétaires.
D'accord, donc ce que vous nous dites globalement, c'est que finalement on a résisté en partie grâce au marché de l'emploi, que le marché de l'emploi lui-même, à un moment donné, va quand même subir le ralentissement économique et qu'à ce moment-là, on aura à la fois l'effet du ralentissement économique et du ralentissement du marché de l'emploi et donc on pourrait avoir une récession plutôt pour 2025.
Alors,
on ne vous demande pas de regarder une boule de cristal, mais c'est simplement pour essayer d'y voir un peu plus.
Un ralentissement nettement plus marqué, parce qu'après récession, il y a récession, récession, il faut mettre des chiffres, mais à ce stade, on est sur une inflexion de croissance, donc un ralentissement qui sera modeste et pas un accident conjoncturel comme on a pu connaître dans l'histoire économique. C'est pas une explosion d'économie, c'est un ralentissement marqué après une période de plusieurs années de croissance exceptionnellement bonne.
Vous partagez cet avis, Anna Boiteux ?
Oui, clairement, on a été un petit peu surpris par la résistance de la croissance, mais je pense que effectivement les risques de récession sont encore là. Pourquoi on a été surpris ? Je pense qu'on n'a pas vu, ce qu'on a bien vu, disons. On a vu le secteur du manufacturier et la récession des biens. Aujourd'hui, le commerce international de biens est en récession puisqu'il a baissé au quatrième trimestre et au premier trimestre. Aujourd'hui, d'accord, l'Allemagne, qui est très industrialisée, est en récession.
Donc ça, c'est clair.
Taïwan est en récession parce qu'on a la crise des semi-conducteurs. En tout cas, l'ajustement. Donc ça, on a bien vu. Mais est-ce qu'on n'a pas bien vu, et ce qu'on n'attendait pas dans une période d'inflation élevée, de croissance négative des salaires, de perte de pouvoir d'achat, la part croissante des revenus des ménages qui étaient dépensés sur les services. Donc on a encore cette embellie post-Covid qui n'est pas infinie, ce rattrapage post-Covid.
On est encore dans le rattrapage post-Covid.
C'est ça ce qui est étonnant, parce que quand on regarde en France, par exemple, la part des dépenses des ménages dépensées sur l'alimentaire baisse, alors que la part sur les services augmente. Donc on a cette rotation entre le manufacturier qui a tenu la croissance sur ces dernières années et les services qui tiennent. Probablement, ça va reconverger. D'accord. Puisqu'une partie de cette croissance est artificiellement tenue par le fait que les ménages étaient assez confiants encore de prendre des prêts à la consommation.
Notamment par l'effet emploi.
Notamment par l'effet emploi, effectivement.
D'accord. Donc vous partagez son avis, c'est-à-dire vous pensez qu'il y aura un moment, un rattrapage, même l'emploi, on va être rattrapé par le ralentissement de l'emploi.
L'emploi, c'est une question très complexe, puisqu'il y a aussi des facteurs démographiques là-dedans, mais je pense aussi qu'on n'est pas encore arrivé au pic sur les taux d'intérêt. Donc effectivement, on voit cette augmentation des taux, ce resserrement monétaire qui est très rapide, mais qui ne s'est pas encore diffusé dans l'économie entièrement, puisqu'on est, parti avec des niveaux de trésorerie, évidemment, de cash des ménages très élevés, donc ça prend du temps. Et on pense qu'effectivement, à la place de prendre 7 à 12 mois, ça va prendre plutôt 18, 24 mois. D'accord. Donc en fait, tout va se jouer sur la fin de cette année et 2024. Et c'est là où effectivement, on va voir probablement des récessions beaucoup moins marquées. Déjà, on n'attendait pas des récessions très fortes. Mais les États-Unis, les indicateurs avancés, ils sont effectivement encore en train de montrer ça. Mais encore quelques poches de résilience. Et il y a encore aussi beaucoup de rattrapage dans le secteur de la construction, le secteur de l'automobile.
Donc on est tous... toujours là. On est
c'est
toujours
ça.
Dans ce rattrapage.
On est toujours dans ce rattrapage.
Adeline Le Maire, la BPI, à travers vous, hein, directement ou indirectement par les fonds dans lesquels elle investit dans combien d'entreprises en fait aujourd'hui ?
Alors, sur l'activité fonds de fonds dont je m'occupe, effectivement, nous, on est investi dans 600 fonds qui, tous ensemble, sont investis dans plus de 5000 entreprises.
D'accord. C'est effectivement, donc, ça vous donne un observatoire en temps réel. Vous avez un sondage en temps réel. Et qu'est-ce que ça vous dit aujourd'hui ?
Alors, on a effectivement un très bon panorama.
Bah oui.
À la fois sur les startups et sur la partie innovation, tech, et également sur la partie PME et ETI, puisque nous accompagnons également des fonds de capital développement transmission qui investissent dans les PME et les ETI. Donc, c'est deux situations qui sont assez... contrastés pour le moment avec les fonds de capital développement transmission qui continuent d'accompagner des PME et des ETI dont les fondamentaux sont solides, qui résistent, qui ont, vous avez mentionné l'emploi comme contrainte parmi les contraintes principales, la capacité à recruter. C'est un vrai sujet aujourd'hui.
C'est un vrai challenge.
Les entreprises veulent recruter et c'est parfois une des
et la macro revient à la micro. C'est-à-dire que là, vous nous dites c'est l'emploi qui tient bien, vous nous dites justement nous on a du mal à recruter.
Il tient tellement bien qu'on a besoin de recruter. Et c'est justement tout l'intérêt, parce qu'il ne faut pas nier quand même les périodes d'incertitude, effectivement, et on a vécu une crise de l'inflation, une crise énergétique. Alors l'Allemagne est en récession technique parce que la crise énergétique pèse beaucoup sur l'industrie, parce que l'inflation pèse sur la consommation des ménages. C'est quand même un peu mieux dans les autres pays de la zone euro. J'ai aussi envie de donner un peu de l'optimisme qui fait partie des valeurs de BPI France. Et c'est aussi, on en parlera en deuxième partie d'émission, tout l'intérêt pour des entreprises de traverser ces moments en étant accompagnées par des actionnaires professionnels qui sont des fonds d'investissement qui les aident à s'adapter, à s'ajuster et à faire face,
c'est intéressant, ça.
À piloter.
Vous pensez vraiment qu'une entreprise qui a un fonds à ses côtés traverse mieux la crise qu'une entreprise qui n'a pas de fonds à ses côtés?
Alors, on en est assez persuadé. C'est prouvé par les chiffres. Et puis, ça sort le dirigeant de sa fameuse solitude. La fameuse solitude du dirigeant ou de la dirigeante. Ne serait-ce que d'avoir un actionnaire présent, hands-on, comme on dit, pour parler avec des anglicismes, à ses côtés, c'est extrêmement précieux pour savoir comment s'adapter, comment piloter en temps d'incertitude.
Grégoire Santil, vous dites, oui, c'est prouvé. Et je rappelle que NextEdge aussi investit en direct dans pas mal d'entreprises. Vous me direz quelles sont les remontées que vous avez du terrain, rapidement?
Sur les 90 entreprises du portefeuille qu'on a, aujourd'hui, on n'a pas d'entreprises qui soient en incident. Et au contraire, on a des entreprises qui vont bien, voire qui font des chiffres records en ce moment. Donc...
Vous êtes encore sur cet effet rattrapage, croissance,
Je pense que c'est plus que ça, parce que ce qui nous marque, c'est trois choses. Il y a, sur l'aspect emploi, il y a la poursuite de cette guerre des talents et la difficulté de retrouver et d'arriver à attirer les meilleurs talents dans des volumes suffisants, parce que ça peut devenir une contrainte à la croissance.
Oui.
Deuxième point, c'est que ce sont les entreprises qui se sont le plus et le mieux transformées qui aujourd'hui performent le mieux.
Okay.
Et puis un troisième point qu'on ne souligne pas suffisamment, c'est que dans cette période de transformation, celles qui sont bien positionnées sur des trucs de fond comme l'innovation environnementale et énergétique ou sur la santé intelligente, on voit des entreprises qui ont des taux de croissance qui sont spectaculaires.
C'est-à-dire, donc vous aussi, vous avez le même c'est-à-dire, l'optimisme.
Mais c'est
l'observation.
Si vous avez des boîtes qui font plus 30, plus 40, 50%, et je ne parle pas de start-up, je parle de boîtes avec
des vrais chiffres d'affaires.
Avec beaucoup de chiffres d'affaires, avec des centaines de personnes. Donc c'est quand même de ce point de vue-là.
C'est plutôt rassurant d'entendre. Vous n'avez pas parlé, Anna a parlé des taux d'intérêt, de l'impact des taux d'intérêt quand j'ai parlé ralentissement de l'économie. Vous l'avez même pas cité, c'est intéressant. C'est-à-dire, vous considérez que c'est pas un phénomène qui ralentit l'économie ?
Il y a des effets de cause et de conséquence.
Ouais.
D'un côté, on a une économie qui tient la route. Certains prédisaient qu'elle rentrerait rapidement et fortement en récession. Ouais. C'est pas du tout le cas.
Ouais.
C'est, à mon avis, plus que du rattrapage par ce marché de l'emploi qui donne un optimisme qu'on ne retrouve pas du tout dans les enquêtes. Les enquêtes sont complètement à côté de la plaque en ce moment, ouais, par rapport à la réalité de ce qu'on écoute là.
Ouais.
Donc ça, c'est nouveau dans le panorama pour nous qui observons les indicateurs venant d'en haut et ceux qui viennent du terrain, des entreprises.
Vous parliez plus souvent, alors.
Non, mais parfois, ça, c'est convergent et parfois, ouais, ça ne l'est pas. Mais les indicateurs avancés de l'économie, qui sont souvent des enquêtes, les enquêtes sont des petites sources d'informations, ouais, avec un tout petit nombre d'informations élémentaires, hein, qui ne sont pas bonnes pour l'instant. L'économie réelle est meilleure. Comme indicateur. Donc, plus de croissance qu'attendu. Dans les bons résultats qu'ont publié les entreprises au premier trimestre, pour les plus grandes d'entre elles, je ne parle pas des boîtes non cotées, mais des entreprises cotées, les grandes, les moyennes, les petites, il y a beaucoup d'inflation dedans.
Ouais.
Il y a un peu de croissance en volume, à part les technolos.
Il y a beaucoup d'augmentation.
Il y a beaucoup d'augmentation de tarifs.
Ouais.
Donc ça, si vous êtes un banquier central, vous écoutez ça très attentivement. Donc oui, les taux de l'intérêt de la Banque Centrale Européenne vont continuer à monter, peut-être jusqu'à 4.
Ouais.
Peut-être jusqu'à 4,
ouais,
mettons des chiffres précis.
Ouais.
On vient d'un taux négatif.
Ouais.
On est à 3, on va aller à 4, donc on n'a plus grand-chose à faire. Et les taux d'intérêt obligataires sont un petit peu en danger pour le moment.
Très bien. Allez, on passe tout de suite à la question de la semaine. Je voulais profiter de votre présence pour vous demander si l'intelligence artificielle allait changer la face économique du monde. On en parle tout le temps. Moi, j'ai même cité ChatGPT pour vous présenter. Anna Boata, d'un point de vue macro, sans rentrer, après on rentrera dans le micro et dans les entreprises et les investissements qu'il faut faire dans le secteur, est-ce que ça change votre vision et vos projections en macroéconomie sur l'économie mondiale, l'intelligence artificielle? Est-ce que vous vous dites, oui, c'est un game changer, c'est une révolution industrielle, donc je suis obligé de projeter et de faire des prévisions qui sont différentes ou pas?
Oui, ça va changer les perspectives à long terme. Parce qu'à court terme, je pense qu'effectivement, on est dans un cycle qui n'est pas très favorable aux nouveaux investissements dont on a besoin. Mais si on compare effectivement au cycle des 90 avec la révolution digitale qu'on a pu avoir aux États-Unis, oui, certainement, ça va apporter plus de productivité. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, puisqu'aujourd'hui, on regarde l'emploi, mais quand on regarde les chiffres de productivité, ce n'est pas génial en France, ce n'est pas génial en Espagne, et c'est peut-être mieux aux États-Unis, mais avec la pandémie, on n'a pas vraiment récupéré.
Donc, vous l'intégrez dans vos projections de productivité, mais à moyen et long terme.
Oui, donc du coup, peut-être sur des évolutions de salaire. Mais ça encore, c'est encore incertain, puisqu'il faut voir comment les politiques publiques vont réagir là-dedans. Est-ce que vraiment ça aura un impact sur les salaires à la baisse, ou est-ce que, en fait, dans des pays où on a beaucoup d'accords, beaucoup de syndicats avec un poids très important, ça ne va pas vraiment changer la donne? Donc, c'est pour l'instant encore tôt pour vraiment pouvoir le quantifié, mais on le regarde effectivement, et surtout pour les dislocations qu'il peut avoir sur le marché de travail, puisque c'est un peu l'incertitude d'aujourd'hui quant à la récession, justement.
Alain, est-ce que vous l'intégrez dans vos projections?
Ma première remarque en amont,
ouais,
sur le capital développement, les start-up, ceux qui ont sorti des logiciels d'intelligence artificielle générative, les toutes dernières générations, vous, ouais, en avez cité un, tu en as cité un. C'est 15 ans d'investissement à coût de milliards qui délivre aujourd'hui.
Ouais.
Donc l'investissement, il paye.
Ouais.
Deuxièmement, il y a un vrai débat. Moi, je serais plus optimiste sur le fait que ça va arriver beaucoup plus vite que prévu, puisqu'il y a un manque de talents. On est tous à peu près d'accord, ouais, là-dessus, dans tous les métiers. Dans l'industrie, dans le BTP, ouais, dans les cafés, les restaurants et les métiers de service, il y a des besoins d'accélération des gains de productivité. Et ces logiciels permettent de le faire à des vitesses qui sont phénoménales,
ouais,
sur le coding, c'est-à-dire tout ce qui est, ouais, logiciel qui va permettre de gagner en productivité dans les métiers de service. Donc oui, c'est une révolution. Et les
comment vous questions... quantifiez-vous quand vous rentrez vos...
C'est pour ça que je reste sur des termes qui sont plutôt génériques. On ne peut pas quantifier. Mais dans les ruptures économiques qu'on a pu connaître dans l'histoire économique, les dot-com, quand, ouais, c'est arrivé à la fin des, ouais, années 90, on nous disait, oui, ça va être important, on va pouvoir faire des achats en clic. Aujourd'hui, toutes les générations, les petits, les,
ouais,
moyens, les grands et les grands-parents, sont tous avec...
Mais ce qui est intéressant, c'est que vous dites, pour l'instant, comme Anna, on ne peut pas le quantifier.
On ne peut pas le quantifier, mais je serais plus optimiste sur la vitesse d'exécution et d'application de l'utilisation de ces de cette intelligence artificielle.
Plus optimiste, ça peut être plus
optimiste. Ça va plus vite.
Plus optimiste ou plus pessimiste, parce que si ça a un impact négatif sur l'emploi, parce que pour l'instant on est en tension sur l'emploi.
Oui.
C'est ce que disait Adine Le Maire sur le terrain, mais un jour peut-être, vous le disiez vous-même, hein, il peut y avoir un ralentissement en matière d'emploi. À ce moment-là, si vous rajoutez en plus l'intelligence artificielle qui peut remplacer une partie des emplois. Alors en ce moment, on est en tension, tant mieux, mais quand on sera plus en tension, ça sera peut-être un problème. Donc c'est pour ça que je modère votre...
Il y a
les deux aspects. Adeline Le Maire, aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel les entreprises dans lesquelles vous investissez sont extrêmement présentes.
Alors, extrêmement présente, je dirais peut-être pas ça tout de suite, parce que c'est quand même encore assez récent, même si c'est effectivement le fruit d'un investissement colossal et qui s'est étalé sur plusieurs années. Mais là, c'est en revanche effectivement très rapide. C'est vraiment le sujet du moment.
C'est fulgurant.
C'est fulgurant. Donc, nous, on a vraiment la conviction que c'est une vraie révolution, que ça va aller très vite et que c'est même déjà en fait parti. Mais comme dans toute nouvelle révolution, il y a effectivement des risques de disruption. Il y a certainement des emplois qui vont être remplacés par l'intelligence artificielle, par l'IA générative, par les modèles de langage, mais c'est aussi créateur de nouveaux modèles et de nouveaux emplois. Et ça, c'est ça qu'on doit encore tous inventer.
Vous pensez ça ? Moi, j'y crois pas. Je pense que c'est vraiment une révolution qui ne créera pas d'emplois, parce que je vois pas quel type d'emploi. Parce que je rigolais, mais
donne des exemples.
Allez-y, Grégoire.
Nous, on est investisseurs dans ce domaine-là depuis 2017.
Ok.
Dans une boîte qui est une des 10 premières plateformes dans le monde dans le domaine de l'IA générative. C'est la seule française. Et elle est dans le domaine de la santé. On a expérimenté tous avec le Covid que, en fait, l'ARN messager permettait d'aller beaucoup plus vite dans la capacité à sortir des médicaments et des vaccins. Et on était bien contents de ça. Ben, aujourd'hui, cette transformation technologique est en train de provoquer deux choses. Un, c'est qu'il y a une multiplication du nombre de médicaments que les grands laboratoires pharmaceutiques souhaitent mettre en marché, et qu'il y a donc un phénomène d'embouteillage à un double niveau, qui est au niveau de la FDA aux États-Unis ou son équivalent en Europe, et au niveau des processus avec tous les essais cliniques et avec ce qu'on appelle les medical writers, etc. L'IA, par exemple, dans ce domaine-là, ça permet d'aller beaucoup plus vite. D'accord. Et ça permet aux medical writers, par exemple, qui ont une denrée si rare...
Toujours pas de création d'emploi.
Mais si, parce que ça permet de faire plus de médicaments derrière. Et je pense que c'est le même phénomène. J'avais la même discussion avec Pierre Gattaz il y a 10 ans sur la problématique de la robotisation dans l'industrie. On disait que ça supprime les emplois. Mais en fait, plus ils robotisaient, et plus ça permettait de faire monter en valeur et en valeur ajoutée les gens qui bossaient dans ces usines. Et ça a eu un impact qui était très positif. Tu regarderas, les chiffres de Radial sont très positifs. Il n'y a pas eu de suppression d'emplois.
Mais au niveau macro, Alain, c'est intéressant parce que c'est le cœur du sujet. Hein.
C'est le cœur du sujet.
C'est ce que disait Anna, le cœur du sujet, c'est l'emploi.
Si on ne raisonne pas sur 6 ou 12 mois, mais un horizon bien plus long.
Voilà.
Le vieillissement de la population qui est ancré aux États-Unis,
qui est massif
en Europe, en Allemagne encore plus prononcé, en Italie encore plus prononcé qu'en France, en Chine il y a une baisse de la population, va faire sortir des gens de la population active vers le statut de retraité. Et donc ta population active au fur et à mesure de l'année, elle va baisser. D'accord. Et donc là, si à court terme, on a vécu combien trop d'années en France, notamment de trop de chômage, la perspective qui s'ouvre devant nous par le vieillissement de la population, c'est un taux de chômage qui structurellement va baisser. Peut-être que c'est déjà en cours. Hein. C'est structurel. C'est pas cyclique.
D'accord.
Donc ça peut remonter un peu si tu as une récession, mais structurellement, on va plutôt manquer. Et donc
c'est une bonne nouvelle.
Alors il n'y a pas que des bonnes nouvelles associées à l'IA. Il y a plein de risques associés. Il y a beaucoup de risques associés. Et cela, il faut mettre des garde-fous, probablement des régulations qui se font au niveau des États ou supranationales. Mais d'un point de vue productivité et de vitesse à laquelle on va utiliser ces nouveaux logiciels, pour moi, ça va être rapide. Ça va être rapide.
Déjà, il y a quelques estimations d'un point de vue productivité. Ouais. En fait, les estimations, bien évidemment, se basent sur d'autres épisodes similaires de disruption, mais ça va jusqu'à 1-2% d'augmentation de productivité par an.
C'est énorme.
Donc, effectivement, c'est énorme. Quand on pense que depuis la pandémie, on a perdu 3.
C'est ça. Après des années de chute de productivité, c'est pour ça.
C'est pour ça que c'est positif.
Oui, c'est positif. Mais moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est comment on va réussir à remettre sur le marché certains de ces emplois qui ont perdu en importance, parce que peut-être qu'ils étaient à faible valeur ajoutée, sur des tâches répétitives. Et comment on va arriver à remettre ces gens-là au travail? Parce qu'on sait aujourd'hui, nous on a fait récemment une enquête, les entreprises demandent au gouvernement de avoir des politiques de upskilling, reskilling. C'est ça aussi.
C'est quoi ça? Ça veut dire quoi?
En français, ça veut dire de mettre les gens au bon poste finalement, d'ailleurs, et faire des formations en continu. On le fait un peu plus en France avec l'apprentissage et tout. Mais voilà, c'est
vaste sujet. En tout cas, pour l'instant, on sera là en deuxième partie de l'émission. Ça sera pas un robot. On va parler de la bourse, qu'on achète ou on vend, le top 3 de nos gérants, les mots de la semaine de nos Jedi et le placement de la semaine. On va faire un numéro spécial sur l'investissement dans le bon côté private equity. À tout de suite.
BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Et on se retrouve en deuxième partie de l'émission. Alors, qu'est-ce qu'on vous a dit? Alors, on vous a parlé de ralentissement économique dans la première partie. On a parlé d'optimisme grâce à la BPI. On a parlé d'intelligence artificielle. Alors, bon, il ne faut pas s'inquiéter, hein, c'est pas grave. Votre job ne va pas être remplacé. En fait, comme on sera de moins en moins nombreux, parce qu'il y aura de plus en plus de vieux comme moi et de moins en moins de jeunes, finalement, tant mieux, il y aura l'intelligence artificielle pour permettre de faire... J'ai bien compris, c'est ça à peu près, Alain?
C'est une des forces en présence.
Donc, on est avec Anna Boata, avec Grégoire Santil, avec Alain Bocota et avec Amine Lemaire. Donc, les valeurs de la BPI, il y a l'optimisme. Ouais. Donc, on va essayer d'être optimiste dans cette deuxième partie de l'émission. Malheureusement, ça commence un peu mal. Je vais être un peu pessimiste sur la France. Alain et Anna, je vais vous interroger sur un chiffre qui m'a marqué cette semaine. L'inflation en Espagne. 2,9%, oui, je dis viva España, 2,9%. Et puis, je m'aperçois quand même, quand je regarde la Grèce, on voulait la sortir de la zone euro, qui a un track record sur les 2-3 dernières années, qui est spectaculaire. L'Espagne qui se débrouille très bien, le Portugal. Et je me dis, et nous, dans tout ça, Anna Boata, qu'est-ce qu'on a raté? Est-ce que finalement, le fait qu'on soit mieux sorti de la crise de 2010 et 2012 fait qu'on n'a pas réformé?
Je pense qu'il faut regarder aussi derrière les chiffres, parce que l'inflation en Espagne est à 2,9, certes, parce qu'il y a des forts effets de base liés à l'énergie, mais en fait, l'inflation sous-jacente, c'est à 6%. Ouais. Donc en fait, ils sont toujours au-dessus de la France un petit peu. Donc,
D'accord, mais globalement, en croissance,
globalement,
par exemple, ils sont meilleurs que nous.
En croissance, ils sont meilleurs, effectivement, parce que je pense que c'est... certes, il y a eu des réformes, mais c'est contextuel aussi. On a une absorption des fonds européens, le Next Generation EU Fund, qui est phénoménal. En Espagne, c'est le seul pays qui a eu le troisième versement de ces fonds. Je ne dis pas que ça va être simple dorénavant, surtout avec la situation politique, parce qu'on sait qu'il y aura des élections anticipées en juillet.
Donc vous dites que ce n'est pas parce qu'ils ont fait mieux que nous, c'est parce qu'ils ont eu plus d'argent.
C'est parce que c'est parmi les premiers bénéficiaires des fonds européens, que ce soit la Grèce, l'Italie, l'Espagne. Après, l'Italie, par exemple, fait aussi des mesures fiscales pour diriger l'argent.
Pas seulement.
Après, ce n'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça. Alain. Il y a aussi un contexte.
Alain, et le réforme tourisme, ou bien sûr. Pognon? Ou les deux, en général?
C'est parce qu'il y a eu des efforts et des réformes qui ont été ces réformes très profondes, qui ont beaucoup perturbé socialement ces trois économies. Donc
extrêmement brutal. Hein,
brutal.
En Grèce, on a arrêté de payer.
Les montants payés pour les retraités ont baissé. Oui. Ces salaires ont baissé. Donc c'est brutal. Donc c'est un ajustement qui était de crise. Hein.
Oui.
Et il bénéficie des fruits de ces restructurations, comme on dit. Donc là, c'est des phénomènes longs, des effets de productivité aussi. La Grèce, qui avait connu... 30 millions de touristes avant la pandémie, qui est descendu à 1 million. Ils sont revenus à 30 sur les prévisions pour cette année. Et ils accueillent en montant les prix. Donc il y aura un peu plus d'inflation que ce qu'on a pu observer, mais les revenus qui vont rester en Grèce par rapport à ce qu'on a connu dans les cycles précédents vont être plus importants. Et donc ça, c'est réinvesti aussi. Et on parlait effectivement des fonds européens. Ils arrivent parce qu'il y a des investissements. Ces fonds-là sont... adossés à des investissements industriels, dans les renouvelables notamment. Et ça, c'est prometteur en matière d'autonomie énergétique, en matière de décarbonation. Donc, il y a un aspect positif, optimiste.
Vous n'êtes pas tous obligés d'être optimistes. Qui nous oblige à être optimistes.
J'entends beaucoup de discours négatifs à l'encontre de l'Europe, qui n'est toujours pas en récession, alors qu'on l'avait prédit avec tous les vents contraires. Donc,
sauf l'Allemagne.
Alors, l'Allemagne, si on veut bien, les révisions, là, ce sont des chiffres préliminaires.
Ouais.
La moyenne des révisions sur un chiffre trimestriel, c'est au moins 0,3. Et donc, si on rajoute et systématiquement le biais des prévisions liminaires,
on n'est pas en récession
en Allemagne. Si on réintègre les biais...
On saura la semaine prochaine. Allez, on passe tout de suite au début de la deuxième partie. Normalement, ça devait être ça, mais on avait pris du retard sur la première parce que c'était passionnant. On va parler des marchés. Alors, cette semaine, et puis le mois de mai a été moyen. Bon, alors, les mois de mai sont toujours assez nazes, hein, puisqu'on dit qu'il faut vendre en mai et partir loin. Sell in May and go away. Bah, ça, c'est... confirmé encore cette année avec une baisse sur les marchés. Mais depuis le début de l'année, si on regarde, c'est quand même pas mal. Le CAC est en hausse de plus de 10%, le DAX de plus de 13%, le S&P de 10%, le Nasdaq de presque 25%, plus de 25%. Bon, il faut dire qu'il avait beaucoup baissé, je sais ce que vont me dire les gens sur le plateau, donc je le dis avant. L'Eurostock 12% et le Nikkei 20%. Alain Bocabza, la bourse, on achète ou on vend?
Je ne serai pas vendeur aujourd'hui. Il y a une force de fond qui est des marchés de taux d'intérêt compliqués. On évoquait dans la première partie de l'émission le fait que la Réserve fédérale n'a pas nécessairement terminé son resserrement, la BCE encore moins. Donc les marchés obligataires sont compliqués. Les liquidités peuvent être attrayantes. Il y a des rendements sur les marchés d'actions qui restent phénoménaux. On est à 3,5 sur les actions européennes, plus des rachats d'actions, et plus des entreprises, pour le premier trimestre en tout cas, qui ont présenté des résultats qui étaient au-dessus des attentes. Les attentes n'étaient peut-être pas très garnies, mais pour l'instant, comme ça a été évoqué tout à l'heure dans le flux plus venant des retours des entreprises, pour l'instant, les entreprises se battent pour garder des marges et des résultats qui sont très très bons. Et elles se battent dans ce contexte-là. Et donc, les indices boursiers, quelque part, ne font que refléter les discours et les résultats qui sont publiés par les entreprises qui sont bons et qui peuvent le rester encore un petit moment.
Donc, vous dites, vous êtes, je le rappelle, responsable de la stratégie d'allocation d'actifs. Donc, vous allez voir les grands institutionnels du monde entier et vous leur donnez des conseils sur où est-ce qu'il faut investir. Vous leur dites, continuez à investir dans la bourse.
Sachant que, oui... Sachant qu'on a un marché qui est mono. En ce moment, il n'y a que les valeurs liées à l'intelligence artificielle qui montent et d'une façon générale les technologiques pour celles qui sont dans l'IA. Donc c'est un nombre restreint et pour l'Europe, c'est les valeurs de luxe.
Ouais.
Si on enlève ces deux compartiments aux États-Unis en Europe...
Une hyper-concentration de la hausse, c'est ça que vous nous dites.
Qui est historique aux États-Unis, qui est récente en Europe. Ouais. En Europe, on avait des compartiments, quand on voit les composants de l'indice à 50 ou à 600...
En France, c'est frappant.
En France, c'est frappant, mais les indices, les actions françaises sont dominantes dans les actions européennes aujourd'hui. Ouais. Donc, il y a une extrême concentration de la performance, donc de rester dans les actions, oui, mais pas nécessairement avec une extrême concentration sur ce qui a déjà très bien fait. Il faut rediversifier le portefeuille pour ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier de ce qui a déjà très très bien fait.
D'accord. On achète ou on vend la bourse, Grégoire Santil? Parce que vous faites un peu du code
des Next. Absolument, tout à fait. Donc on vend par rapport au portefeuille trois valeurs.
Ah d'accord, vous parlez de votre portefeille, on y va.
Trois valeurs. On vend en EON, il y a eu une augmentation de capital récente qui a permis de sécuriser des investissements, mais il y a l'impact des taux d'intérêt, donc on vend. Axway a fait une bonne progression depuis le début de l'année, donc on vend. Et Dassault, on a profité du bon rebond des valeurs technologiques, et donc on vend. Il y a une spéculation sur l'IA, donc on vend. On achète LS, qui est une boîte cotée en Italie dans le domaine des semi-conducteurs, qui travaille beaucoup avec ST Microelectronics, que Nicolas Dufour connaît bien.
Je rappelle que c'est le patron de la BPI.
Absolument, et il est président du conseil aussi. Donc, et c'est un domaine dans lequel il se passe des choses passionnantes. Puis une information intéressante, on parlait tout à l'heure de... dans le domaine de la santé, Moderna, qui va annoncer dans 48 heures les résultats de son vaccin sur le cancer à partir de l'ARN messager. Et là, ça fait partie aussi des transformations qui sont en cours. Et on voit bien que les boîtes qui se transforment en bourse
continuent à performer. Allez, on passe au top 3 des gérants. Virginie Robert, 34,3%. Louis de Montalembert, 25,9%. Pascal Sévy, 14,5%. Ça fait plaisir quand même d'avoir des performances qui sont des performances bonnes, voire spectaculaires dans certains des cas. Tant mieux, espérons que ça dure. Allez, maintenant, on va passer au mot de la semaine. Anna Boata, le mot de la semaine pour vous, c'était quoi?
Je vais faire très classique, désinflation.
Ah ouais, bah, allez-y.
Très, très classique, ouais. Désinflation, parce qu'effectivement, on voit déjà quelques signes encourageants. Qu'on a.
Ça fait plaisir quand même.
Ça fait plaisir.
Parce qu'on l'attendait.
Il faut regarder toujours...
Oui, derrière, je sais. Les économistes décortiquent tout.
On espère justement qu'on attendra un pic des taux de la BCE à 3,75, 4, mais pas au-delà en fait. Donc ça donne des raisons pour attendre la fin ou le pic bientôt sur les taux d'intérêt. Après, ça ne donne pas forcément des raisons très encourageantes pour attendre la baisse des taux qu'on attendait.
Non, mais ce n'est pas grave, chaque chose en son temps.
Chaque chose en son temps, mais bon, avec des taux qui restent à 4% ou 5% pour trop longtemps, bon, bah, on verra l'atterrissage économique.
Célébrons chaque étape. Grégoire Santil, le mot de la semaine pour vous.
Transformation.
Oui.
Parce que, précisément, les PME, les ETI qui innovent pour se transformer, ou qui innovent pour, et qui transforment leur marché, sont celles qui performent le mieux, c'est assez frappant. Mmh. Et donc, ça, c'est une tendance longue, parce que la révolution qui est en cours, elle est...
Quand vous dites la révolution, j'ai envie de dire les révolutions.
Les révolutions, je suis d'accord.
Parce qu'il y en a tellement.
Il y en a tellement.
C'est même plus... On n'arrive même pas à les citer, tellement il y en a.
Non, mais on est d'accord.
Alain, le mot de la semaine pour vous.
Embellie.
Ah, bah... Qu'est-ce qui se passe?
C'est pas
l'esprit
le
de la BPI qui est parmi nous.
J'ai rien dit.
Vous les avez brainwashed avant d'arriver, non? Vous avez appelé tout le monde.
C'est pas que le climat avec le soleil qui est arrivé.
Ouais.
C'est une certaine lecture qui part du marché de l'emploi et qui part pas des indicateurs avancés macro en se disant que j'ai un job, je suis content. Donc quelque part il y a une distorsion par rapport à l'ambiance qu'on peut parfois évoquer et la réalité de l'économie en France, mais un peu partout dans le monde occidental. Au Japon c'est en train de se produire en ce moment, donc ça paraît un peu loin, mais une économie qui a végété depuis 25 ans est en train de décoller. Et ça se voit sur les indices boursiers,
évidemment.
Hein, c'est pas terminé.
Qui a retrouvé son niveau de décembre 89 si on ne tient pas compte des dividendes.
Absolument, mais c'est loin
d'être. C'est quand même spectaculaire.
C'est loin d'être terminé.
Ouais.
Donc l'embellie, c'est une lecture dans laquelle finalement c'est Cassandre qui nous prédisait beaucoup de mauvaises nouvelles. Tout n'est pas rose, mais il y a une dynamique des économies européennes qui se met en route et qui est prometteuse.
Esprit de la BPI sort de ce corps. Adeline Lemaire, vous allez me dire optimisme, non?
Démocratisation.
Ah.
Voilà.
Pourquoi?
Mot de la semaine, démocratisation, parce qu'on va en parler. Ce qu'on cherche à faire, et en particulier en ce moment, on le fait déjà depuis 2020, c'est de permettre aux épargnants français, de la façon la plus large possible, d'accéder à cette classe d'actifs qui est le private equity, qui est l'investissement de mon côté. Et on a un produit qui permet d'investir à partir de 1 000 euros de tickets unitaires minimum. Et donc, c'est vraiment une illustration de ce qu'on cherche à faire pour démocratiser l'accès à ce type d'investissement.
Quelle belle transition. Je l'aurais écrit, j'aurais pas fait mieux. Maintenant, on passe donc au placement de la semaine après cette transition merveilleuse avec une spéciale investissement non coté. Alors, on va tout vous dire sur cet investissement qui a la cote depuis longtemps dans les family office pour ce qu'on appelle les high net worth, les grosses fortunes que connaît bien, puisqu'il en fait partie, notre ami Grégoire Santil, et qui commence à rentrer dans les chaumières des gens du peuple, comme moi, dans toutes les allocations. On va commencer par le commencement. C'est quoi l'investissement? Parce qu'il y a une sorte de flou. On parle de private equity, puis on parle d'investissement non coté. Est-ce que c'est la même chose, déjà?
Private equity, ça veut dire investissement.
D'accord.
Donc, simplement, c'est en private, ça veut dire que ça n'est pas sur les marchés boursiers. Et d'ailleurs, ce que ça fait apparaître, c'est une transformation en profondeur. Tu faisais référence tout à l'heure à l'impact de Jean-Charles Naouri sur la transformation du marché financier français. En fait, si on prend trois pas de recul, on s'aperçoit que depuis 10 ans, les montants totaux levés en bourse sont devenus moins importants dans le monde, et pas que à l'échelle de la France, que les montants levés en capitaux privés. Et donc ça a des implications qui sont très importantes, parce que le financement de l'économie est de plus en plus réalisé au travers des capitaux privés. Et d'ailleurs, il n'y a pas de mystère, on voit bien que les 6 premières entreprises au monde sont toutes passées, aujourd'hui, et dans des délais assez rapides, par la case capital investissement, et je parle de Amazon, de Google, d'Apple,
d'accord,
etc.
Vous ne m'avez pas répondu, qu'est-ce qu'il y a dans le non-coté qui n'est pas du private equity? Parce que les gens qui nous écoutent n'y connaissent rien, comme beaucoup de gens, et beaucoup de particuliers ne connaissent pas encore.
Je pense qu'on sera d'accord avec Aline Le Maire pour dire que le private equity, c'est quoi? C'est l'investissement non-coté dans le capital d'investissement qui sont soit des start-up, c'est le capital risque, soit dans des PME, dans des ETI, c'est le capital développement, soit le capital transmission ou le LBO, là où on rachète des entreprises avec de l'equity et un effet de levier.
Quand vous dites de l'equity, c'est des actions,
c'est des actions.
Pas de la dette.
C'est pas de la dette.
D'accord.
Et puis, il y a aussi l'infrastructure, évidemment, qui se développe, parce que l'infrastructure, on voit bien, on vit avec, et c'est aussi une classe d'actifs qui se développe dans des proportions importantes. Alors ensuite, la question se pose de savoir si la private debt, c'est du private equity.
Voilà. La dette privée, je traduis en français.
Je pense qu'on peut dire que c'est dans les actifs réels, mais dire que c'est du private equity est, je crois, un tout petit peu abusif.
D'ailleurs, Adeline Lemaire, comment vous faites pour traduire private equity? Tout simplement, là, quand vous faites votre promotion du produit, on va en parler tout de suite, hein, pour le retail, vous dites quoi?
On dit qu'il s'agit d'investir en capital.
Investir en capital, non coté, dans des entreprises.
Dans des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse.
Donc c'est investissement en capital dans des entreprises non cotées. Qu'est-ce qui vous a fait dire que c'était un produit pour les particuliers et qu'un particulier qui peut mettre 1000 euros doit ou peut aller dans l'investissement non coté?
Il y a vraiment deux choses. D'abord, c'est une classe d'actifs qui est performante, qui surperforme dans le temps long les actifs cotés. Donc c'est un rendement intéressant, c'est un placement intéressant auquel les épargnants, et en particulier les épargnants français, n'avaient jusque récemment pas accès, puisque c'était effectivement réservé à des investisseurs institutionnels.
Privilégiés ou
des grands, professionnels, des grands assureurs, réassureurs.
Donc soit des professionnels, des particuliers. Mais
dans les pays où ça existe. Voilà. Des family office, des personnes fortunées qui pouvaient entrer dans un fonds, acquérir des parts de fonds d'investissement à partir d'un ticket minimum de 100 000 euros. Donc c'était effectivement...
Et encore, je rappelle que pour certains fonds très prestigieux, la barre est encore plus haute.
Oui. Ceux, effectivement, qui peuvent lever... 100 000 euros, c'était une contrainte réglementaire, mais libre à chaque gérant, effectivement, de faire monter les enchères et de ne prendre des tickets unitaires que plus haut. Deuxième aspect, on a le sentiment que pour l'épargnant français... C'est intéressant de savoir où va son argent et de savoir qu'on finance une économie de proximité, qu'on finance les start-up, les PME et les ETI de son pays, ou les start-up, les PME, les ETI européennes, qu'on participe aux grandes innovations, qu'on participe aux grands enjeux de transformation de nos entreprises. Ça donne aussi beaucoup de sens à ce produit. Donc on a essayé de faire converger ces deux constats en donnant accès aux particuliers, à partir donc de tickets qui sont plus accessibles.
Oui, parce qu'Anna Boata, avant le début de l'émission, on a dit, moi, on m'a proposé ça, mais je ne pouvais pas y aller parce que je ne voulais pas mettre 100 000 euros. Et vous lui avez dit tout de suite, venez chez moi, c'est 1 000 euros. Oui, Grégoire Santil, parce que j'ai plein de questions à vous poser.
Un point très important sur la démocratisation de l'accès au capital investissement, c'est que, comme dans l'industrie du logiciel, c'est pas un produit, c'est de moins en moins un produit qu'on va acheter, et de plus en plus un produit qui va s'intégrer dans des solutions de l'assurance vie. On avait été les premiers à lancer ça en 2016,
quand vous dites
avec Macron et avec le patron d'AXA. On est aussi dans le domaine du plan d'épargne retraite, de l'épargne retraite.
Alors, attendez, vous anticipez, parce que ma question suivante, vous allez y répondre, je vous interromps, excusez-moi, c'est juste pour un souci de clarté. Aujourd'hui, si un particulier, on va parler après du produit BPI, si un particulier veut investir dans le private equity, dans l'investissement en capital non coté, comment est-ce qu'il peut faire, pratiquement?
Eh bien, comment est-ce qu'il fait? Il s'adresse soit à son CGP, soit à son assureur. On travaille chez Nextage avec AXA, avec le Crédit Agricole chez Spirica, etc. Et donc, là, il peut souscrire là-dessus et ça se vend.
Donc, vous dites
bien
qu'on peut investir dans du private equity à travers un contrat d'assurance vie?
Absolument.
OK.
Au travers de son plan d'épargne retraite.
D'accord.
Et au travers de son épargne salariale. D'accord. Et en fait, c'est en train de devenir un service parce qu'il faut s'intégrer dans le temps, et c'est la logique de la loi qui a été votée en 2019 sur la loi Pacte PER. C'est le principe de la gestion pilotée, parce qu'en fait il faut piloter ça dans le temps. C'est une révolution. Comme dans l'industrie du logiciel, avant tout était un produit, maintenant ça devient un service.
Ce qui est très intéressant, c'est ce que vous dites, c'est qu'en fait c'est à travers des produits traditionnels comme l'assurance vie et maintenant le PER, on peut loger, comme on logeait des fonds cotés, comme on logeait de l'or, comme on logeait de la pierre papier, Là, il y a une nouvelle classe d'actifs qui s'ouvre pour les particuliers, qui est l'investissement dans le non-coté. Est-ce que vous, juste une petite parenthèse avant qu'on passe au produit de la BPI, est-ce que vous l'intégrez, vous, dans votre... Vous êtes responsable de la stratégie d'allocation d'actifs. Est-ce que vous dites à vos institutionnels, bah, il faut en mettre 20%, par exemple, et dans quel pays? Très rapidement.
Dans les outils qu'on développe, on fait du multi-actif partout dans le monde, dans le coté. Donc, d'accord, dans les tableaux d'allocation d'actifs, vous... c'est pas repris. On parle à des acteurs
qui investissent
aussi dans les fonds d'infrastructure, dans les fonds de dette.
Et quand vous écoutez Grégoire Santil qui vous dit, finalement, Alain Bocabza, il va être au chômage parce qu'il fait que du coté dans quelques temps, qu'est-ce que vous répondez?
On parle là d'un univers où j'ai entendu parler de petites entreprises, de start-up, de TI, donc d'entreprises de taille intermédiaire, avant la cotation. Parce que quand elles continuent à grandir, elles vont vers la cotation.
Pas forcément, pas toutes. Hein.
Pas toutes, ouais. Mais certaines vont rester privées, avec des actionnaires privés, accompagnés par des fonds. Mais la nouvelle variable que j'aurais voulu introduire est la suivante. Le monde des petites entreprises, en Europe et particulièrement en France, est en général endetté. Et c'est une des faiblesses structurelles, en matière d'emploi notamment, de l'économie française.
Ouais.
C'est que les petites boîtes, elles sont endettées. Or là, on parle d'investissement en capital. On a essayé de traduire le mot equity. Ouais. C'est d'investissement en fonds propres. Ouais. Et donc ça, c'est solide. Parce que c'est ce qui va permettre, dans les phases de développement de ces entreprises, de ne pas se fragiliser par de la dette et d'avancer en capital pour continuer à grandir. Et donc c'est un peu nouveau dans le panorama et c'était une des fragilités de l'économie française qui est en train de se transformer.
Bah, que des bonnes nouvelles. Alors la BPI a déjà lancé 2 fonds de private equity pour les particuliers qui ont cartonné, hein, déjà. Vous avez des belles performances, bravo. Et maintenant le troisième est un peu différent. Vous pouvez nous expliquer ce que vous avez fait rapidement parce que ça c'est du passé. Et expliquez-nous ce que vous avez lancé et pourquoi vous considérez qu'aujourd'hui c'est adapté au portefeuille, au patrimoine d'un particulier?
Bien sûr, très rapidement sur ce qu'on a lancé en 2020 et 2022, 2 fonds, BPI France Entreprises 1 et 2, qui ont permis de donner accès aux particuliers pour des tickets unitaires de 5 000 euros la première fois, 3 000 euros la deuxième fois, donc vous voyez qu'on a continué à baisser, à un portefeuille qui était déjà constitué. Donc on a déjà utilisé la métaphore ou l'image du gâteau, c'est-à-dire qu'on avait déjà un gâteau, on a coupé une part d'un gâteau qui existait déjà et qui a continué à apporter ses fruits, si je puis dire, pour les particuliers qui avaient investi. Aujourd'hui, en fait, le gâteau, on va le faire ensemble. On va le faire et je pense qu'il normalement, il sera très bon. C'est BPI France Entreprise Avenir. Avenir, pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un portefeuille qu'on va constituer sur les 12 à 18 prochains mois. On propose aux particuliers qui peuvent donc, à partir d'un ticket unitaire de 1 000 euros, investir dans BPI France Entreprise.
Vous avez entendu,
Alain.
Investir, vous êtes concerné.
Voilà. Et on leur propose, je crois que Nicolas Dufour qui avait utilisé l'image du ski nautique sur cette antenne, c'est exactement ça, de faire du ski nautique derrière nous. Donc de se fier à nos décisions d'investissement, nos capacités de sélection, parce qu'on est un gros investisseur en fonds de fonds, on sélectionne des fonds d'investissement en capital innovation jusqu'à 40%, en capital développement au minimum pour 60%. Donc voilà, ça donne un petit peu la composition du portefeuille qui sera constitué dans le cadre de BPI France Entreprises Avenir et qui vont donc ensuite déployer chacun de ces fonds, 12 à 15 fonds dans le portefeuille qui chacun déploieront dans 10 à 15 entreprises. Ça donne de la capacité aussi à diversifier le portefeuille qui est ainsi constitué.
Donc, pour revenir sur ce que disait Grégoire, donc on va pouvoir investir aux côtés de la BPI dans des enveloppes qui sont les nôtres, c'est-à-dire les enveloppes assurance vie, PER. Donc là, on est vraiment dans un environnement fiscal qui est privilégié, hein,
Alors, pour un particulier. En fait, il y a deux façons de souscrire. On a vraiment une distribution qui est ouverte et multicanal.
Oui.
Donc soit en direct, il y a une plateforme qui a été développée au sein de la BPI par l'ensemble des équipes et qui permet en 20 minutes, avec une carte bleue et un passeport, de souscrire à ce fonds, BPI France Entreprise Avenir. Et par ailleurs, via un certain nombre de partenariats avec des canaux de distribution.
Donc ça, je peux le faire pour mon contrat, dans mon contrat
dans un contrat en unité de compte en assurance vie, sur un PEA PME ou via de l'épargne retraite. Il y a effectivement différents supports qui sont éligibles.
Il nous reste quelques secondes. Quels sont les pièges à éviter pour un particulier qui nous écoute, c'est pas des professionnels, quand ils veulent investir dans le private equity, qu'est-ce que vous leur dites? Faites attention à quoi? Rapidement.
Ce à quoi il faut faire attention, c'est de regarder la qualité du sous-jacent, parce que ça.
Et la qualité du sous-jacent, c'est la qualité du gérant.
C'est la qualité du gérant.
Oui.
Parce que c'est comme quand on construit une cave. on constitue une cave, on la constitue avec des vignerons dont on sait qu'ils font du travail de qualité.
C'est sympa, on a parlé de gâteaux, de caves.
Mais je crois que c'est un parallèle qui est pertinent parce qu'on construit dans le temps et c'est ça le cas. Alors les autres éléments auxquels il faut faire attention, par exemple la question des frais, d'avoir des frais qui soient raisonnables. Parce que c'est important que la performance du sous-jacent ne soit pas obérée par des frais.
J'ai envie de dire que c'est peut-être le piège principal à éviter.
C'est pour ça que...
Vous avez bien fait de le citer.
C'est pour ça que j'y fais référence.
Merci de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités. C'était très clair. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous dire qu'elle sera exceptionnelle. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, nous voir, nous revoir, nous réécouter. Surtout si vous n'avez pas tout compris sur l'investissement non coté. En podcast sur toutes les plateformes. Et on fait des scores exceptionnels mois après mois.